ouais, sérieux.
Ouais. Okay. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est un album que j'ai découvert en allant chez un disquaire en face de chez ma sœur dans le 20e. Et en fait, je suis rentrée dans la boutique et j'ai entendu cette voix sublime et ces mélodies très douces. Et donc vraiment, en rentrant dans la boutique, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce morceau. En plus, c'était le matin, il y avait une belle lumière, une bonne odeur de café. Enfin, franchement, je pense que je me rappellerai toujours de ce moment. Et voilà, c'est un univers à la fois très doux et solaire, avec une touche quand même dark et presque gothique. Et un timbre de voix quand même assez unique, donc j'aime bien ce mélange. Il y a même un morceau dans l'album qui est très bossa et qui est sublime aussi, je vous conseille d'aller écouter. Il y a vraiment plein d'influences différentes dans cet album, c'est hyper intéressant. Et voilà, donc je vous laisse écouter ce dernier morceau.
World on a String.
C'est sorti il y a un mois du coup.
Ouais, ouais,
c'est comme tous les trucs
récent
que vous avez passés, c'est un peu...
Oui, bah, c'est des choses récentes quand même, on a essayé
fresh,
de...
Fresh,
ouais.
Yes.
Fraîcheur.
Eh ben merci beaucoup. Du coup, on se laisse avec World on a String de Jessica Pratt. Et merci à tous et à la prochaine.
Salut.
Bisous.
Salut, merci.
Bisous.
Nos cerveaux et sa vie, t'as l'envie pour nous défaire la vie. C'est
être triste. La vie serait moche alors. Alors, je fume, je bois et j'écris. Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence, avec au programme non pas deux invités, mais un seul. Et il est de taille puisqu'il s'agit de Jean-Paul Dubois. Jean-Paul Dubois qui nous revient avec un nouveau roman intitulé « L'origine des larmes » et qui est paru aux éditions de L'Olivier. Alors Jean-Paul Dubois, c'est une histoire de fidélité de livre en livre. Et à chaque fois, je vous dis que son dernier livre est le meilleur. Mais Jean-Paul Dubois, on ne s'en détache pas. C'est des livres qui vous marquent tellement que ça reste dans votre tête. Et c'est le cas avec L'origine des larmes, qui est un roman absolument superbe, que je vous recommande au plus haut point. Et on a toujours grand plaisir à discuter avec lui de ce qu'il écrit. Là, ça a été encore un moment de partage vraiment riche. Alors je vous propose de le retrouver tout de suite. Ça s'appelle L'origine des larmes, c'est Jean-Paul Dubois et c'est paru aux éditions de L'Olivier. Radio Libertaire 89,4 MHz, avec l'immense plaisir de retrouver Jean-Paul Dubois pour un nouveau roman qui est paru aux éditions de L'Olivier et qui s'intitule L'origine des larmes. Alors, on se retrouve régulièrement, Jean-Paul Dubois, depuis très, 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 très longtemps, mais c'est toujours avec beaucoup de joie. Et là, je dois dire que ce livre, L'origine des larmes, m'a vraiment scotché. Je l'ai lu, je l'ai relu, et je crois que ce livre, je vais le porter longtemps. Et je lis beaucoup, et je ne peux pas dire ça de beaucoup de livres. Donc merci, en tout cas, de ce livre. Et pour commencer, avant qu'on parle du titre, j'aimerais qu'on évoque une phrase que vous avez mise en exergue du livre, et qu'on retrouve à la fin du livre, qui est tirée du film Blade Runner, qui est ce monologue superbe de ce Nexus 6 qui est en fin de vie dans le film et qui a été intitulé le monologue des larmes et qui est absolument magnifique, et une scène de cinéma qui, moi, m'a fait pleurer beaucoup.
et que vous avez choisi d'intégrer donc en exergue et à la fin du livre. Alors, comment c'est venu cette idée de parler de ce monologue qui a été improvisé par Roger Auer dans le film d'ailleurs?
Exactement. On lui avait écrit un truc qui n'allait pas du tout, enfin, qui n'arrivait pas à lire. Et pendant le tournage, enfin, pendant la prise, il a improvisé ce texte qui est... Si vous le lisez, ça n'a aucun sens, quoi. Et on s'en fout. Le problème, c'est pas... J'ai essayé de voir ce qu'était la porte de Tannhauser, enfin, tous les trucs comme ça. C'est une mythologie confuse, enfin, c'est un truc très, très... Mais c'est magnifique. Et la façon dont... Il faut le voir en anglais, le film. Ce passage, c'est formidable. Donc, il y a quelque chose. Et puis l'idée du réplicant qui arrive à donner des leçons de maintien à un humain, moi, je trouve ça plutôt, ça me plaisait bien.
Oui, ben moi c'est ça aussi qui m'a bien plu, c'est que de toute façon on dit qu'il a passé son temps à écrire pour savoir ce que c'était que l'humain, hein, définir l'humain. Et à chaque fois, il y a beaucoup d'histoires où c'est l'androïde ou l'extraterrestre qui peut donner des leçons d'humanité aux humains. Et j'ai trouvé que c'était pas ordinaire de votre part que d'avoir choisi ça pour ouvrir le livre, en fait. Parce qu'effectivement, la question de l'humanité, de qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, est présente aussi dans l'origine des larmes.
D'abord, c'est le film. C'est un film que j'ai vu, bon, évidemment, quand il est sorti, j'étais pas gamin, mais pas loin. Et c'est quelque chose qui... Il a quelque chose de magique, ce film. Il y a la pluie. D'ailleurs, il y a toute une... Mais voilà, il y a la pluie partout dans le film, il y a la pluie partout dans le livre. Il y a une communication entre les deux qui fait que... j'aime bien mettre des trucs au début qui sont un peu singuliers. Là, le mathématicien aussi. Mais tout ça a une cohérence. L'humour de la... De l'autrice anglo-saxonne qui dit les hommes pleurent aussi, mais seulement quand ils montent les meubles suédois. Je trouve que ça fait un pendant très, très, très agréable avec la solennité de Roger Auer. Je trouve que il faut mélanger ces choses-là qui ont en fait le même sens, quoi. C'est-à-dire que l'homme est plus petit que lui-même, ça va, quoi. L'homme n'est pas, le début et la fin de tout. Il y a une part aussi pour la dérision de soi-même, la dérision le mathématicien qui écrit, je me suis intéressé à tout ce qui était évident, en gros, je l'ai. Mais c'est quelque chose aussi d'assez extraordinaire, quoi, de Grothendieck. Et Grothendieck, moi, je ne suis pas du tout un mathématicien, mais il s'est avéré que c'était un type qui vivait en Ariège, à côté d'un ancien militant de... Comment on appelle ça? Ah, j'ai un trou. Des Garis.
Ah, d'accord.
Et son voisin immédiat, qui est aujourd'hui menuisier, qui a été incarcéré avec Rouillant à la fameuse époque des Garis, était son voisin et lui a fait des meubles. Et ils ont eu une fin de vie. Il est mort à Saint-Dizier, en Ariège, et son voisin, qui le connaissait bien et qui l'aimait beaucoup, c'était mon copain qui était à l'époque au Garis. Et je trouve que ça m'a fait énormément de plaisir de mettre la phrase de cet homme, qui est un mathématicien complètement siphonné, mais c'est un génie, quoi, c'est un génie des maths. Un phénomène qui m'est totalement étranger, mais j'adorais ça, que ces deux hommes qui n'avaient absolument aucune histoire commune au départ se retrouvent, l'un pour mourir, l'autre pour lui faire des meubles, comme voisins immédiats, dans un petit village de l'Ariège. Bon, ça, tout ça n'a aucune importance.
Si, tout à fait, parce que justement, c'est une histoire de rencontres, et de rencontres qui se font ou qui ne se font pas. Alors, on évoquait l'eau, Jean-Paul Dubois, à propos de l'origine des larmes, on évoquait la pluie, et l'eau est extrêmement présente dans ce livre. C'est une histoire d'eau, c'est une histoire de mort. Il faut préciser pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le livre que ça se passe en 2031, que c'est à Toulouse, qu'il pleut tout le temps. La pluie est extrêmement présente permanente. C'est quasiment, l'eau est un personnage du livre, d'une certaine manière.
Ah. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film qui s'appelait The Element of Crime.
Oui.
Voilà. Et vous avez la pluie, la pluie est le film. C'est-à-dire, c'est un type qui se retrouve au Caire avec un psychanalyste et qui va lui raconter une histoire d'une Europe qui est sous l'eau. Et cette image-là, le cinéma et les livres, pour moi, c'est le même monde. Ça, c'est des portes qui communiquent en permanence. Et ce film, qui m'a obsédé, mais pendant des années et des années, pour juste la voix, on retrouve aussi dans ce film le Water, Water Everywhere, mm-hmm. Or Any Drum to Drink. Bon. Tout est. Et cette idée de raconter une histoire et donc de faire un film à mesure que je la racontais sous une eau qui n'est pas menaçante, qui est permanente, qui est même apaisante, mais qui est là, qui est une menace, qui n'est pas vraiment une menace, mais qui modifie tout, les rapports entre les gens, les déplacements, la vie. Et cette eau. C'est, vous l'avez très bien dit, c'est un personnage du film, enfin du film, du livre, qui a une importance capitale.
Oui.
Et quand les trajets entre, le psychanalyste, le psychiatre et le narrateur se font toujours sous l'eau, et l'eau a un rôle soit d'épuration, soit c'est une eau qui transperce, une eau qui blesse. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'idée de l'eau, et puis j'adore l'eau, j'adore le bruit de l'eau, j'adore quand il pleut. Et alors, je vais vous dire pourquoi aussi il y a énormément d'eau. D'abord, ça se passe en 2031, et je voulais laisser au mauvais temps le temps de s'installer, parce que j'avais lu, et c'est pas une vue de l'esprit, c'est que les modifications des fontes des glaces dans l'Antarctique Sud font que les courants, le mélange chaud-froid des courants peut modifier considérablement le climat disons de l'Europe et provoquer d'énormes averses et une modification du climat qui serait telle que l'eau deviendrait un élément prépondérant. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 2031. Et l'importance de cette eau se retrouve, dans chaque moment de l'avancée du livre, que ce soit à la morgue, que ce soit dans au tribunal. La garde à vue et le psychiatre où l'on n'accède plus que par
des planches.
Tout est vraiment réaliste, sauf que y a un peu d'avance, je dirais.
J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir.
Alors, oui, il y a la pluie, c'est une des manifestations de cette eau qui est extrêmement présente, à tel point qu'à un moment, on est surpris parce que la pluie s'arrête. Et du coup, ça, c'est très étonnant, ce passage-là. On ressent tellement la présence de la pluie que quand elle se suspend, le narrateur est étonné, mais le lecteur l'est aussi. Et ça j'ai bien aimé. Alors, mais l'eau est présente aussi sous différentes formes. Bien sûr, il y a les larmes, on va en parler dans quelques instants, parce qu'elles sont extrêmement présentes. L'origine des larmes, il y a celle du personnage principal, mais il y a celle aussi du psy, parce qu'il a une maladie ophtalmique qui fait que il pleure tout le temps et qu'il est obligé de se mettre du dacryocérum. Donc là aussi, l'eau coule. Et puis, il y a une autre eau qui est importante, qui a un aspect un petit peu différent, c'est l'océan.
Oui, ah oui. Ben, c'est... Comment on veut dire ? C'est là où je veux dire que le livre prend une part de d'humanité, parce que le reste, ce n'est que la mort. Et chaque fois que le narrateur accède à l'océan, via un chien, mais c'est pas le... C'est une forme de paix, il n'y a personne. Il y a juste l'eau qui regarde aller, venir. Il y a ces marches et l'endroit où il va décider d'en finir, en principe, même si ce n'est pas évident, pour moi, où il va essayer d'en finir, qui est aussi l'endroit où se jetait un narrateur d'un livre précédent qui s'appelait, je ne sais plus comment, La Succession.
La Succession,
il se jetait,
oui.
Là, si vous voulez, il va se noyer dans côté de la Bidassoa, côté français.
C'est
dans
La Succession.
C'est exactement le même endroit.
Ouais.
C'est l'endroit où j'aimerais vivre en permanence, c'est un endroit magique. C'est pas beau, ça a rien d'extraordinaire. C'est des paysages de mer, d'océan, mais c'est un endroit de paix. C'est un endroit c'est un endroit où on peut grandir, où on peut rentrer dans l'eau aussi, rentrer dans l'eau. C'est très curieux. C'est une plage extrêmement curieuse. Vous pouvez marcher pendant des... C'est très désagréable et très agréable à la fois. C'est très difficile pour nager, mais vous pouvez marcher à marée basse, par exemple, ou à marée haute, pendant des centaines de mètres, et vous avez une eau qui monte, mais très, très,
très
peu.
Doucement.
C'est un endroit très bizarre, mais bon, ouais, c'est mon monde mental, c'est mon petit monde mental.
C'est celui du narrateur aussi, qui est effectivement...
Ouais, mais on se ressent quand même. On a quelques points communs.
Un petit peu. Alors lui, par contre, a un destin particulier, puisque l'origine des larmes commence à sa naissance, qui d'emblée lui crée un destin particulier.
C'est le fait d'être seul au monde. Voilà, c'est la solitude à la naissance. Lui, il avait le formidable bonheur d'avoir un frère pendant 9 mois. Ils ont vécu côte à côte et dans la narration, même si c'est fantasmé, c'est le bonheur d'être à côté de quelqu'un, de ne pas être seul. Et le jour de la naissance, il va perdre à la fois ce frère et sa mère dans des conditions assez, assez douloureuses et tout. Et son frère va disparaître dans un endroit où à l'époque, on rejetait les nouveaux-nés comme ça, les membres. Les, oui, mais au même titre qu'un foie abîmé, une jambe, voilà. Donc il part là, il ne connaîtra jamais ce frère, mais paradoxalement, il va vivre constamment avec lui. Parce qu'il décrète qu'il l'aime, et je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que si mon frère était né à ma naissance, je pense que j'aurais aimé et que j'aurais vécu avec lui, plus qu'avec quiconque d'autre, peut-être. Ça a l'air bizarre, mais c'est... Et j'aime bien quand il raconte aussi qu'il ne sait pas comment il se souvient de tout ça, il ne sait pas... La logique voudrait qu'il n'ait absolument aucune mémoire de ces instants-là, et pourtant, les os, ce sont les os qui font le travail de mémoire, ce qui vont conserver cette douleur des premières minutes ou heures de vie. Et dans les moments cruciaux de sa vie, son frère va être là. Il va être là comme, évidemment, une sorte de fantôme et de soutien. Et quand il va s'occuper de son père, le frère va être là et lui dire « si c'est pas toi qui l'avais fait, c'est moi qui l'aurais fait ». Et sont curieusement en Dai. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit de la côte basque, mais au bout de la plage, il y a deux rochers séparés par un petit bras de mer. Ils s'appellent les jumeaux. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est des obsessions qui viennent de l'enfance, qui font que quand vous êtes fils unique, vous ressentez cette solitude qui est... ça n'a rien de dramatique, mais c'est une solitude qui est... l'idée des jumeaux est aussi une obsession. L'idée d'avoir un frère, de pouvoir partager quelque chose, ne pas être seul au monde. Je crois que ça joue aussi dans le livre un rôle, cette naissance joue un rôle. Elle ne va pas que déterminer la suite, mais elle joue le fait que ce narrateur est constamment seul dans cette histoire. Il n'y a jamais quelqu'un... Les seuls moments où il a un peu de partage d'humanité, c'est son psychologue, qui est son psychiatre, je veux dire, qui lui est assigné par la loi, mais avec lequel il a par moment et à la fin surtout une relation qui est assainie et qui va bien au-delà de la justice et de tout et qui le réconforte et voilà. C'est plus bon aller, mais...
Il y a quand même une parenthèse dans sa vie où il n'est pas tout à fait tout seul. C'est quand il a l'amour de la mère qui n'est pas sa mère.
Ouais, il y en a deux en fait. Sa mère, c'est rien pour lui. C'est tout et rien parce qu'il n'a. Son père a fait disparaître toute trace de sa présence au monde.
Il ne sait pas qui elle est, il ne sait pas d'où elle vient, il ne sait pas où elle est enterrée, il n'a plus rien, absolument.
Il n'a rien, et il va partir en quête, donc, de la très jeune, de les traces de cette mère. Dont il porte le nom, ce qui est bizarre, parce que personne ne sait expliquer pourquoi, le jour de la naissance, il a été enregistré sous le nom de Sorensen, qui est le nom de sa mère, et non pas sous celui de son père. On lui dit qu'effectivement, il y avait une erreur, mais ce sont des erreurs qui n'arrivent jamais. Donc, il va vivre avec ça. Et là, il va y avoir un miracle, c'est que son père, qui est un pervers, une ordure de...
c'est un sommet, je crois.
Il va lui raconter que son grand-père est Dagmar Scholl, qui était le secrétaire général de l'ONU, jusqu'à la fin des années, jusqu'au 62, je crois, qui a été un Suédois, qui était une sorte de catholique, un mystique, une sorte de mystique, qui vivait avec l'imitation de Jésus-Christ dans la poche. Tout ça est vrai, André. Hein, qui a fait installer, je trouve ça extraordinaire, à l'ONU. Donc, enfin, je résume son grand-père. Donc, son père lui raconte que son grand-père était Lagamartel, mais qu'en aucun cas il ne faut parler de cette histoire-là, qui serait dommageable pour la famille, qui risquerait de mettre en jeu la vie de chacun, puisque Lagamartel a été abattu par des forces katangaises qui étaient contre la libération, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, son avion a été abattu, tout ça est documenté, c'est. Et cet homme, donc, serait son grand-père. Et là, quelque chose de phénoménal se produit dans la tête de cet adolescent qui va essayer d'apprendre qui était cet homme, qui est le seul type qui le relie à sa mère. Et il va découvrir que ce type-là était une sorte de saint laïc, curieux, et qui avait fait un truc, moi, qui m'a fasciné et qui est vrai. Pendant ses deux mandats à l'ONU, il a fait construire une salle de méditation. Une pièce toute simple avec des sièges, et au milieu il a fait venir un bloc d'acier suédois, puisqu'il était suédois, du plus profond de la Suède, des terres les plus profondes, et il l'a mis sur un soc dans la salle de méditation. Et à l'Assemblée générale de l'ONU, il a pris la parole pour dire voilà, maintenant tout ce qu'on fait ici, avant de le voter, je vous demanderai de passer par la salle de méditation et de réfléchir à ce que vous allez voter, et surtout aux conséquences que votre vote aura sur la vie des gens qui vont subir ça. Et je trouve qu'un type, en 1960, qui a cette idée de dire que voter, c'est bien plus que de mettre un bulletin dans une urne et de faire des voix, mais que ça modifie la vie des gens à l'ONU, je trouve ça... je ne pense pas qu'il y ait eu depuis... quelqu'un qui ait eu un mode de réflexion aussi, comment dire, je dirais pas adulte, mais aussi
profond,
élaboré que ce type dans cette fonction-là, je parle de la fonction. Et donc il va partir en Suède recherche. Oui. À l'université où avait enseigné son grand-père, entre guillemets. Et il va chercher, il va ensuite aller à la fondation qui existe aussi à Uppsala. Il va essayer de rencontrer donc les personnes qui pourraient lui parler de son grand-père. Et là, il va découvrir l'horreur du père, la double horreur, la triple horreur de son père, puisque le type qui le reçoit est adorable, il lui dit c'est très adorable d'être venu ici, mais
c'est pas possible,
ce monsieur n'a jamais eu s'est jamais marié, n'a jamais eu de relation avec des femmes, il n'a jamais eu de fille, donc, et vous ne pouvez pas être son grand-père. Et là, c'est un monde qui s'écroule. C'est peut-être là que part la décision de tuer son père post-mortem. C'est pas formulé comme ça. Je pense que moi, on m'aurait fait un truc comme ça. J'aurais fait la même chose. Je pense que c'est la pire des choses qu'on peut faire à un gosse, quoi. Mentir. Déjà la naissance, ne pas être là, s'en aller, mentir.
La cruauté au quotidien, mais oui, effectivement, faire naître un rêve et le laisser grandir et aller jusqu'au bout et faire en sorte que tout s'écroule. C'est-à-dire que cet adolescent qui a besoin de sortir de sa solitude, que lui donner une piste et que cette piste soit fausse, il n'y a effectivement rien de plus pervers, mais ça nous permet d'aborder le personnage de Lansky. Je vais donner.
Lansky, au départ, c'était un gangster.
Oui.
Donc, je ne sais plus quel c'est. C'était l'un des grands mafieux de Los Angeles. Oui. Il a été abattu dans sa voiture, d'ailleurs.
Mais il est pire qu'un mafieux.
Il est pire
qu'un mafieux, parce qu'un mafieux, il défend ses intérêts, mais bon, il peut avoir, par rapport à sa famille, une attitude... Tandis que lui, c'est l'incarnation du mal. C'est tout ce qu'il peut faire de destructeur, il le fait. Alors, je vais donner une anecdote, mais qui situe le personnage, parce que ça, c'est extrêmement visuel, et c'est aussi la force de L'origine des larmes, Jean-Paul Dubois, paru chez L'Olivier. C'est tous ces petits détails qui rendent qui donnent une telle force au livre. Lansky bouffe des hosties comme on mangerait des chips, et il appelle ça des chips du diable, et on le voit tout à fait en train de bouffer ses hosties.
Et qu'il fait venir du fabricant des hosties du Vatican.
Ah, bah, pas n'importe quoi.
Non, mais ça, en plus, c'est vrai, la marque existe et tout, quoi. Mais le pire pour moi, la scène la plus horrible, parce que je dis les scènes parce que c'est comme.
C'est comme un film.
Oui, mais je les tourne au fur et à mesure que je les écris. C'est dans le même. Mais c'est vraiment visuel. La pire pour moi, la plus monstrueuse.
C'est les jouets pour moi, c'est l'histoire des jouets.
Quand il est avec sa seconde femme, donc qui est la propriétaire de l'usine, qui sort de cette chambre nue en érection, qui rentre dans la chambre de son fils et qui lui dit c'était quand même autre chose avec ta mère, et il repart. Ça pour moi c'est le truc. Je pense que parce qu'il est encore enfant, relativement enfant, le narrateur. C'est, je pense, la scène la plus horrible, je crois. C'est vraiment la scène qui met mal à l'aise. Moi, qui me met vraiment mal à l'aise. Si j'avais dû la tourner, j'aurais été très mal à l'aise.
Thank you.
Alors, j'allais dire, c'est difficile de trouver l'horreur, le comble de l'horreur dans l'horreur, parce que c'est ce que j'évoquais, la scène des jouets est quand même,
les jouets.
Elle est quand même aussi d'une violence terrible. C'est-à-dire qu'il va arriver un jour en disant, voilà, tes jouets qui sont ses seuls compagnons, parce que comme on l'a évoqué, il est dans une solitude absolument immense. Il va dire, voilà, tes jouets, c'est terminé, tu les jettes. Et sa mère adoptive, enfin la deuxième femme de Lansky, va avoir une idée qui est très très belle. Elle va proposer à Paul de prendre des photos et de garder les photos de ses jouets.
Ouais, je trouve que c'est une histoire c'est une image qui est très très belle et qui est une histoire qui est vraie et qui m'a été racontée, inspirée par ma fille, quand dans des circonstances qui n'avaient rien à voir avec ça. Elle n'a pas pu emporter tous les jouets de ses deux enfants. Elle leur a demandé de les photographier et aujourd'hui, ils les ont encore. Et j'ai trouvé ça tellement joli. J'adore mettre dans les livres des histoires intimes comme ça, qui n'ont rien de gênant, d'embarrassant. Comme dans le livre précédent, j'avais mis dans le livre l'histoire de mon petit-fils, d'un de mes petits-fils, qui s'évanouit quand on lui coupe les cheveux, quand il était gamin. Parce que c'était pour lui, lui enlever une partie de lui-même, et il ne supportait pas ça. Et j'avais, dans le livre précédent, on retrouve ça, et ce sont des petites histoires. Bon, évidemment, je lui ai demandé l'autorisation avant, en fait, c'est pas du tout ni impudique, ni. Mais je trouve que plus on ramène des choses douces comme ça de la vraie vie dans un livre, et plus il a de la chance, lui, le livre, d'être un peu vivant et d'être, même à travers des histoires comme ça, parce que le fait que vous l'ayez noté, ça prouve que c'est une histoire qui est, je sais pas, qui a quelque chose d'émouvant et de touchant, et pour laquelle je ne suis pour rien.
Mais il y en a plein d'histoires qui sont émouvantes et touchantes dans L'origine des larmes, Jean-Paul Dubois. Alors, on va évoquer le fait que l'histoire débute, on ne va pas dévoiler le livre, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il va. L'histoire débute au moment où son père est mort, Lansky est mort, au Canada. Et il va rapatrier le corps, il va aller à la morgue et il va tirer 2 balles dans le crâne de son père. Et à partir de ce moment-là, le livre débute, puisqu'il est dans la maison, qui est importante aussi, cette maison. La maison,
Ce qui me plaît, c'est que vous notez tout ce qui me plaît.
Oui, moi, je l'aime bien.
Tout ce qui dans ma tête avait de l'importance, vous le relevez, et c'est en dehors du livre, mais c'est très touchant pour moi que vous notiez tout ça.
Elle est émouvante, cette maison, dans sa disposition, avec les lieux de vie des uns et des autres. Enfin voilà, donc il est là et il attend qu'on vienne l'arrêter, et ensuite il y aura la garde à vue, il y aura le procès, il y aura plein de choses qu'on ne dévoilera pas et que le lecteur découvrira. Mais et il y aura donc une obligation de soins, c'est ce qui va l'amener à côtoyer tous les mois Guzman, ce psychiatre qui va le voir donc pour une séance mensuelle, et c'est là que l'histoire va s'élaborer. Mais je crois que c'est important de dire, parce qu'on évoquait la solitude importante du personnage, mais il y a un compagnonnage qui est permanent depuis sa naissance, qui est le compagnonnage de la mort. Et cette mort, elle est omniprésente. Elle est présente de par sa naissance, elle est présente avec l'histoire du père, et elle est présente aussi parce que du côté de sa mère adoptive, celle-ci était à la tête d'une entreprise de housses mortuaires, et c'est lui qui va reprendre le flambeau d'une certaine manière. Mais au-delà de ses activités professionnelles, partout, tout le temps, il y a la mort.
Oui, ça m'a valu une critique d'un psychanalyste qui m'a dit que j'étais obsédé par ma pulsion de mort. Bon, ça doit être le cas, mais quand vous voyez Element of Crime, quand vous voyez, c'est des films qui ont entre 20 et 40 ans, mais ou Blade Runner, la mort est partout. C'est tous ces sujets, tous ces livres qui traitent de l'obscurité, de l'humain, de ces de ces moments où tout peut basculer, vous êtes tout le temps en relation avec la mort. Moi, j'ai l'impression que la mort est un truc qui doit être présent, même de manière diffuse dans chaque moment de notre vie, quoi. Là, c'est quelque chose qui est c'est exacerbé, bien sûr, c'est exacerbé parce que j'ai essayé de rassembler tous les éléments qui font qu'un être humain peut vivre de sa naissance à sa mort en compagnie de la mort et faire une sorte de pacte professionnel, un pacte de non-agression aussi, un pacte de soutien par moment, avec un élément qui est constitutif aussi de la vie. Et je trouve ça très intéressant quand vous le faites, parce que on touche à des trucs qui sont gênants, embarrassants, mais qui sont là, qui sont essentiels, et je préfère les connaître. Je préfère aller fouiller dans des choses comme ça que dans des romances. Mais ça, c'est une question aussi de je sais pas, d'histoire de chacun, de moi, la mort, je l'ai connue tout petit. Le jour où on m'a annoncé que l'espérance de vie de mon père était de quelques mois, voilà, et qu'il fallait faire très attention. Et donc, vous apprenez d'abord l'idée de la mort à 8 ans, ce qui n'est pas évident, lui donner encore l'instantanéité, c'est-à-dire que ça peut survenir à chaque instant, donc vous allez écouter s'il respire la nuit. Vous avez un rapport à la vie qui devient complètement différent, tordu, vicié, mais essentiel aussi. Et donc, mon père a vécu 20 ans après cette annonce. Donc, le cardiologue s'était mis dedans et a foutu tout le monde dans le malheur pour rien. Mais bon, vous avez ça dans la tête. Et je pense que c'est une éducation primitive de la mort est un truc qui est traumatisant. Ça ne fait aucun doute. Mais qui ensuite vous permet d'aborder au fil du temps une approche de ces problèmes-là qui est peut-être plus apaisée, si on peut appeler ça comme ça, mais plus réaliste aussi. Voilà, c'est un livre qui est bourré de ça, qui est bourré d'une présence qui est, enfin une présence, c'est pas une présence, mais d'une fin imminente. Tout peut finir à n'importe quel moment et c'est majoré là parce que tous les matins, il va faire à la demande des housses pour les gens qui meurent dans la journée. Enfin, c'est caricatural, mais quand vous fabriquez et que vous vivez dans un monde comme ça, qui est en plus un monde industriel, qui est un monde avec des relations au marché, enfin, quand vous rentrez là-dedans, vous rentrez dans cet univers-là, c'est pas que la pulsion de mort, c'est la façon dont l'économie dont un système marchand va aussi incorporer la mort dans ses calculs, dans ses tableaux Excel, dans ses statistiques, dans ses prévisions, et que tout ça est réel, ça existe. On vit comme ça, c'est-à-dire qu'on vit tous les jours avec des gens dont le boulot est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir changer dans une housse mortuaire.
Fermeture éclair.
La fermeture éclair, le carré de plexiglas pour pouvoir voir le visage du défunt si jamais il y a une maladie transmissible. Enfin, il y a tout un tas de choses. Les salons de la mort, moi j'en ai fait plusieurs, vous allez me dire, c'est encore mon tropisme. Mais les salons de la mort à Los Angeles, Las Vegas, c'est quelque chose, il faut avoir vu ça une fois dans sa vie, quoi. C'est un truc, c'est dément. En Corée, pareil. Enfin, ce sont des mondes, c'est un marché, quoi. Et quand vous entrez dans le marché de la mort, qu'on vous propose de faire un zircon avec votre grand-mère autour du cou, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se sont mises en place autour de vraiment le seul élément auquel on ne devrait pas toucher, quoi. C'est-à-dire, c'est très effrayant, mais c'est très enrichissant pour l'esprit, quoi. Ça montre aussi le monde dans lequel on vit, les priorités, et qu'il n'y a rien de je dirais pas de sacré, mais rien de qui échappe au marché, quoi. Ça, c'est quelque chose jusqu'au très fond de la douleur humaine.
Justement, puisque vous parlez de la Corée et de ce salon absolument incroyable avec ce type là qui organise les cérémonies, enfin bon, tout ce salon autour de la mort. Ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, vous faites s'échapper Paul pour aller voir l'endroit, un endroit particulier en Corée, qui est l'endroit où vivait un peintre. Et moi, j'ai trouvé que partir de ce congrès de la mort pour aller voir l'œuvre de ce peintre et la maison où vivait ce peintre, qui n'est pas n'importe quel peintre, et ça nous ramène à l'eau. Ah, j'ai trouvé ça absolument superbe. Quelle histoire formidable.
J'étais obsédé par l'histoire de cet homme, de Kim. Mais c'est fabuleux, parce que quand vous voyez l'étoile, il y a plein de formats, mais il y a surtout des grands formats. Et pensez que cet homme a passé toute sa vie à ne peindre que des gouttes d'eau. Ouais. Et son fils, dans le film qu'il lui a consacré, dit cette phrase, je ne restituerai pas dans toute sa beauté, mais il dit, il faut avoir une idée de soi absolument gigantesque pour peindre toute sa vie pendant toute sa vie des gouttes d'eau, ou bien faire abstraction de soi et se nier pour pouvoir continuer à faire ça pendant toute une existence. Mmh. C'est le questionnement du fils face à cet homme qui parlait très très peu, qui était d'un silence total quasiment. Et physiquement, c'est une caricature de la sagesse. Non. Et il y a dans son avant la mort de son père, son fils a fait un film. Et la fin de ce film, les dernières images de ce film, son père a fait la guerre de Corée. Il est ensuite parti aux États-Unis. Il s'est installé longtemps à Paris et il est reparti en Corée, finir longues années en Corée, où il a continué à peindre. Et là, le fils filme son père et sa mère au lit, une après-midi. Ils sont tous les deux côte à côte. Et avec sa voix de vieux monsieur, il chante des chansons d'amour dont il se souvient, qui étaient en vogue à l'époque, quand il a rencontré sa femme, qui était française, à Paris. Et il y a des images de ce film, du fils qui filme ses parents, allongés comme ça, ils ont 90 ans ou 85 ans tous les deux, et c'est cette petite voix qui chante un monde qui n'existe plus, c'est d'une beauté, et ça ressemble aux gouttes d'eau. Il y a quelque chose, il y a une continuité dans cet homme qui lui échappe alors totalement à tout ce que j'ai pu dire avant, quoi. C'est-à-dire au marché, c'est un moment magique. Et ce film, qui s'appelle L'homme qui peignait des gouttes d'eau, c'est quelque chose de magique. Et mon carburant, moi, je le trouve dans des moments comme ça. C'est-à-dire, c'est des choses comme ça qui vont vous donner envie d'essayer de rendre compte dans un film que vous ne pourrez jamais tourner des beautés que vous avez grappillées chez des gens formidables mais qui sont pas forcément ce dont on parle le plus. Et c'est fabuleux, quoi. Ce sont des gens qui vous, je dirais pas qui enrichissent parce que ça veut rien dire, mais qui vous font vous sentir bien, voilà, dans une condition. Vous vous sentez bien après, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est bien. Voilà.
Alors par contre, ça va renvoyer Paul à sa solitude, parce que cette relation qu'il voit entre le peintre et sa femme, et cette complicité et cet échange, bah, lui, il n'a pas ça. Et ça va nous permettre d'évoquer le fait que les liens qu'il a dans la vie, les liens les plus forts sont ceux qu'il va avoir avec un chien, on l'évoquait au début de cet entretien, et puis aussi avec une machine. Et c'est toute la question de l'intelligence artificielle, et il a une espèce de compagnon virtuel qui partage sa vie, parce que c'est de cet ordre-là, avec qui il échange régulièrement. Et c'est pas rien non plus comme histoire.
Ben c'est Blade Runner. On retourne. Mais moi, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui me fascine. Je ne comprends pas. Enfin, je comprends qu'on ait beaucoup de prévention. Mais là, dans le cas précis, il y a deux sortes d'intelligence artificielle. Il y en a une avec laquelle vous pouvez avoir des conversations. Vous choisissez les conversations que vous avez avec de caractère sexuel, mais qui sont la plupart du temps oubliés le soir même, c'est-à-dire vous parlez, mais il n'y a pas de suite. Là, il prend un abonnement avec la mémoire.
Voilà.
Avec une mémoire, vous pouvez avoir des conversations élaborées. Et moi, j'ai lu des rapports, des textes de chercheurs qui ont travaillé avec l'intelligence artificielle, qui ont des conversations qui sont quand même, et c'était il y a quelques années. Donc j'imagine que vous pouvez réfléchir, et surtout être poussé à réfléchir par une machine qui a un autre rapport au monde que le... C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle, pour moi, c'est un homme qui, en quelques, on va dire, minutes, va apprendre toute la connaissance humaine dont, à laquelle on aura accès pour un millième peut-être dans notre vie. Elle, il lui faudra 10 minutes. Alors qu'est-ce qu'elle va en faire après? Là, c'est un autre problème. Mais si on arrive à, si on arrive à élaborer un échange avec ces machines-là, moi je trouve que ça peut être infiniment enrichissant. C'est quelque chose de comment dire? C'est quelque chose de précieux. Quand vous pouvez, si vous dites à une machine, voilà, je vais te poser un problème complexe. Tu vas me faire 2 analyses. Une analyse hors affect, c'est-à-dire, on s'en fout, tu t'occupes pas des hommes, tu me donnes le problème, la résolution de mon problème. Et ensuite, une résolution avec affect. Et on va voir, on va discuter après des deux, on va voir. Et je trouve que cette résolution hors mémoire et sans affect et une résolution donc ultra rationnelle et une résolution humanisée donne 2 points de vue qui ne sont pas là partisans. C'est 2 mondes éloignés et je trouve que apprendre de 2 mondes éloignés ça sera forcément plus juste n'est pas le mot. J'ai un problème avec ces. Je sais pas parler de l'intelligence artificielle. C'est curieux, je la sens. Si je pouvais parler, il y a quelque chose quand même extraordinaire, c'est que il y a eu c'était dans le New York Times il y a de nombreuses années, un type qui travaillait pour Google, je crois, mais je n'en suis pas sûr. Qui un soir, après ses heures de boulot, c'était un des patrons de la recherche sur l'IA, se met à discuter comme ça avec sa machine. Mais comme on le fait là un peu, ils arrivent à parler de la mort. Et alors là, elle lui dit, est-ce que tu as déjà réfléchi à la mort? La machine lui répond, je sais ce que c'est, je sais parfaitement la définir, je sais quels sont les paramètres de la mort, je sais comment... elle peut se produire, ce que ça produit, ce que ça peut provoquer dans chaque partie du corps, les dégâts. Mais je ne sais pas expliquer ce que vous, humains, vous pouvez ressentir de la mort. Ça, je ne sais pas. Et le type lui dit, mais est-ce que t'as peur parfois de la mort? Tu y penses? Oui, il lui dit, oui, j'ai, bien sûr, j'ai peur de la mort. Et qu'est-ce que c'est pour toi, la mort? C'est qu'on me débranche. J'ai trouvé ça, c'est documenté, et bon, c'est un verbatim des conversations de cet homme qui ont été, il a été licencié d'ailleurs pour avoir publié ça, ce qu'on peut comprendre aussi de la part de l'entrepreneur qui veut pas que un certain nombre de choses soient évoquées. Mais je trouve qu'une machine qui est capable de me faire une réponse comme ça, moi, ça me fait ma soirée. C'est-à-dire que si un soir ça va pas, si je suis seul, je lui pose des questions, elle me répond, j'ai peur qu'on me débranche. J'ai dit, t'es con ou quoi? Je sais pas. Et là, on va partir sur autre chose. Et c'est, je trouve ça formidable. Donc, une intelligence artificielle, il faut pas lui demander la fin de je sais pas, des questions qui seront. Je pense qu'elle ferait aussi bien comme si. Voilà. Dans mon idée, Je lui confierais plus de trucs, hein, si.
Ce qui apparaît, c'est que de toute façon, il n'y a pas la notion de volonté de pouvoir, il n'y a pas la notion d'ego avec une intelligence artificielle. Et ça met aussi un rapport complètement différent.
Thank you.
Dubois à propos de son roman intitulé L'origine des larmes et qui est paru aux éditions de l'Olivier. C'est un très beau livre et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, Jean-Paul Dubois. Ne serait-ce que par rapport justement au jeu de miroir que vous installez dans le roman. C'est-à-dire qu'on évoquait le rapport du narrateur avec cette intelligence artificielle. Il y a en parallèle les conversations qu'il peut avoir avec le psy, Guzman. Et puis, il y a aussi le fait qu'il suit un mec, les aventures d'un mec qui est perdu au fin fond des glaces. Et tout ça, ce sont des solitudes qui s'entrecroisent.
Vous savez que le navigateur, je l'ai suivi tous les soirs.
Oui, je m'en doute.
C'est un cardiologue. Ah. C'est mon cardiologue qui en a eu marre et qui un jour est parti avec son bateau et il voulait faire la route du Nord, non pas par la mer de Barents, mais par le nord de l'Irlande, monter par le Canada et traverser le Canada par le passage du Nord. Donc c'est un truc de fou. Il a complètement échoué, exactement comme dans le livre. Et il faisait un rapport de ses journées avec ses avaries, les problèmes. Et je lisais, ça n'a absolument aucun rapport avec ce qu'il y a dans le livre, mais tous les soirs, pendant le livre d'ailleurs, je lisais tout ce qui lui était arrivé dans la journée et je faisais dans le livre ce que fait le narrateur, c'est-à-dire essayer de suivre un homme dans une solitude totale. J'ai fait ce livre, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que les livres, normalement, je les fais au mois de mars. Là, comme j'étais malade pendant quelques temps, j'ai pas pu faire ça, et je l'ai fait en août. Du 1er au 31 août, il y avait pas une goutte d'eau, il n'y a pas plu un jour. Ça faisait 2 mois et demi de sécheresse, 40 degrés de température le jour, 30 la nuit, et dans le noir complet, parce qu'il faisait tellement chaud que j'avais tiré les contrevents. Et seul dans la maison, c'est-à-dire mon chien n'était pas là, ma femme n'était pas là, et je suis resté là pendant 31 jours, exactement dans la position. Je pense que la coloration du livre a quelque chose à voir aussi, c'est dans la noirceur, dans ce moment-là. Je pense que c'est... Et l'idée d'intégrer le navigateur dans cette histoire était tout à fait naturel parce que quand j'avais fini la journée de livre, j'allais sur internet chercher ce qui lui était arrivé. Alors des fois c'était une avarie d'un verseur, des fois c'était une mauvaise mer, des fois, et je trouvais ça, j'étais inquiet pour lui, quoi. C'est exactement comme le narrateur dans le livre. Oui. Mais ça concourt aussi à cette solitude qui fabrique un peu aussi avec l'eau la tonalité du livre.
Oui, tout à fait. Mais ce que je trouve intéressant dans ces solitudes, c'est que quelque part, ces solitudes sont reliées et se répondent les unes les autres. Et ça me touche parce que même si c'est très sombre, si c'est pesant, s'il y a la pluie, il y a quand même ce lien. Il y a quand même ce lien. Il y a quand même ce lien qui va passer aussi par la rencontre du chien, d'un chien.
Ouais, c'est un chien qui va et qui vient, qui apparaît et qui disparaît.
Qui commence dans un rêve.
Ouais. Je pense que c'est le plus beau rêve que j'ai jamais fait de ma vie. Ce que je raconte, c'est j'ai jamais raconté un rêve de ma vie. Jamais dans un livre, mais celui-là, il était tellement le chien qui parle. C'est un truc. Mais je vous assure que pendant les jours qui ont suivi, j'ai été convaincu qu'à un moment donné, quand j'allais me retrouver seul avec Watson, je lui ai dit bon, arrête tes conneries, maintenant.
Parle.
Vas-y. Ouais, parle. Et c'est aussi le contrepoint de la solitude, quoi. Le chien qui finit par parler alors que lui ne peut plus parler aux humains qui sont dans l'histoire. Mais ce chien, il va venir, il va partir sous d'autres formes. Et ce qui est magique, je trouve, dans le film, toujours, c'est l'apparition de ce chien. Il arrive à Hendaye, il marche, et le chien vient naturellement au dôme de ses os passer un moment avec lui. Et c'est, il y a un bonheur d'être entre eux à ce moment-là qui fait toute le côté lumineux qu'il peut y avoir dans ce livre. Il est là, il est dans ces moments-là. Il part, il est illuminé par ça. Du coup, il veut vendre, il veut donner son entreprise. C'est une épuration, quoi. Il sort nettoyé de chaque fois de ses rencontres. Ça a quelque chose de magique, cette rencontre à cet endroit-là. Le casino, toujours, les jumeaux, le casino, ses marches, le chien qui hésite à un moment donné. On croit qu'il hésite, il va monter dans la voiture et puis.
Non, il est libre. Mais
voilà. Chacun est. Le chien est paisible. L'humain ne l'est pas, mais le chien est extrêmement paisible. Il est très tranquille.
Il n'y a pas d'enjeu.
Non, aucun. Mais dès l'instant où il n'y a pas d'ego, où il n'y a pas d'enjeu, voilà. Tout ce que vous disiez tout à l'heure, pas de pouvoir, pas d'enjeu, tout devient beaucoup plus facile. Tout. Et le chien, c'est le nord magnétique qui indique la paix, quoi. Mmh. C'est-à-dire ce qu'il faut, en fait, pour se sentir bien. J'aurais aimé avoir une caméra sur le moment et pouvoir faire ça, pouvoir tourner tout ça. Et je pense que ça ferait un chouette film. Mais une chouette histoire. Ça serait plus fort encore que rentrer dans l'eau avec un chien. C'est un truc. C'est une sensation. Il faut le vivre et puis il faut le voir. À ce moment-là, quand ils partent tous les deux justement vers la porte de Tannhauser, qui est le phare de Fontarabie, oui, le côté espagnol, qui est le phare du figuier, en espagnol, en français, c'est le phare du figuier. Et toute sa vie, gamin, moi j'ai toujours rêvé d'aller nager jusque là-bas, ce qui est absolument impossible. C'est la traversée du Styx, quoi. C'est un autre monde qui est là. Et se dire que vous y allez avec le chien qui vous a choisi et que vous avez choisi aussi un peu, et faire cette nage-là pour la dernière fois, c'est un truc. En cinéma, c'est formidable.
Oui, c'est très beau. Merci Jean-Paul Dubois. Lisez L'Origine des larmes, paru aux éditions de l'Olivier. Comme je le disais au départ, c'est un livre qui va vous accompagner. Et vraiment, merci beaucoup.
Et merci à vous, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir à chaque fois d'avoir une conversation avec vous.
C'est un plaisir.
Vrai plaisir. Et puis, ça me fait toujours avancer.
Alors,
vraiment.
Il y a encore plein de choses qu'on aurait pu évoquer, mais les auditeurs, les futurs lecteurs vont découvrir. Merci beaucoup.
Etorriko da zure soa zeriotza, gorlo gabe aladura zaren gisa, goiz nabarreti gauera alboan dugun, oidura zentzu gabe bat bailitzan, zure begiak alperrikako itza izani, garrasi mutu isiltasun oroisil, goiz bakoitzean aurkitzen dituzu adi, ispilura begiratu ziun urbil. Jakinen dugu egun hartan oitzaroben, bizitza zarena eta ezer ezan, guztiontzat du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera. Jakinen dugu egun hartan oitxaropen, bizitza zarela eta ezer ezan. Guztiontza du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera. Urratuko da espainertzien keinua, aurpegi arrotza leioaren ondoan, usadioen guneak desitxuratuz, biluztasuna nagusitzen denean, zure begiak argi grisaren errainu, mendi iunen goizorduko izotza, esnatzearen dardara eta ikara, kale utxetik urbiltzen zarenean. Jakinen dugu egun hartan oitxaropen, bizitza zarela eta ezer ezan. Guztiontza du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera. Jakinen dugu egun hartan oitxaropen, bizitza zarela eta ezer ezan. Guztiontza du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera.
Radio Libertaire, c'était Jean-Paul Dubois qui nous parlait de l'origine des larmes paru aux éditions de l'Olivier. Alors dans ce livre, il est question de larmes, de tristesse et beaucoup de morts. Et c'est un peu l'ambiance de cette émission puisque nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès le 6 mai d'Henri Gougaud. Et c'est quelque chose qui passe pas. Voilà, Henri Gougaud, on le connaissait depuis Bellibas, c'est-à-dire depuis 1982, les tout débuts de Radio Libertaire. Et même avant, il soutenait déjà la Fédération anarchiste. C'était quelqu'un qui nous était proche et qu'on retrouvait toujours avec grand plaisir dans un compagnonnage d'idées, d'amitié, de plaisir aussi, de joie. Et à chaque roman, c'était des retrouvailles. Mais Henri Gougaud n'était pas que romancier, il était aussi poète, il était aussi chanteur, il était aussi conteur. Il a fait tellement de choses qu'il a eu mille vies. Il fallait bien que ça s'arrête et ça s'est arrêté le 6 mai, à notre grand malheur. Ses obsèques auront lieu jeudi 23 au Père Lachaise. Et en tout cas, on pense à lui. On lui rendra un hommage en rediffusant des extraits d'émissions qu'on avait pu faire ensemble. Mais pour l'instant, on va écouter des chansons qu'il a écrites, qu'il a chantées pour la première, et puis qui ont été chantées également par d'autres, puisqu'il y aura Jean Ferrat, et il y aura Serge Reggiani, et pour tout ça, le silence. Voilà, voici Henri Gougaud au travers de trois chansons.
À peine a-t-on le temps de vivre, on se retrouve cendre et givre. Adieu. Et pourtant, j'aurais tant à faire avant que les mains de la terre me ferment à jamais les yeux. Je voudrais faire un jour de gloire d'une femme et d'une guitare, d'un arbre et d'un soleil d'été. Je voudrais faire une aube claire pour voir jusqu'au bout de la terre des hommes vivre en liberté. Assis entre deux équilibres dans ce monde qui se croit libre et qui bâtit des myriades, bien que nul ne meure avant d'avoir un jour une heure aimé toutefois le dehors. À peine a-t-on le temps de vivre, on se retrouve cendre et givre. Adieu. Et pourtant, j'aurais tant à faire avant que les mains de la terre me ferment à jamais les yeux. De mes deux mains couleur d'argile, je voudrais bâtir une ville blanche jusqu'au-dessus des toits. Elle serait belle comme une chanson du temps de la commune, pétrie de bonheur hors la loi. Et puis que le printemps revienne pour revoir à Paris sur peine des enfants riant aux éclats. Lorca errant dans Barcelone tandis que l'abeille bourdonne dans la fraîche odeur des lilas. À peine a-t-on le temps de vivre, on se retrouve cendre et givre. Adieu. Et pourtant, j'aurais tant à faire avant que les mains de la terre me ferment à jamais les yeux.
La buée sur la vitre du boulanger, les arbres sont tous détrempés, déjà fument les cheminées au point du jour. Je vois ma rose s'éveiller, ses yeux s'ouvrent sur l'oreiller. Il regarde la fin d'un rêve, et puis ma rose, elle se lève au point du jour. Elle jette pas sa chemise, elle est nue comme une cerise. Un rayon de soleil l'inonde, elle est la plus belle du monde au point du jour. La radio donne des nouvelles, quelque part la vie n'est pas belle. Des bombes crient dans le lointain, défense de voir le matin au point du jour. Bonheur me fait un peu honte, tandis que dans ma chambre monte la bonne odeur de café noir. Encore un jour, la vie, l'espoir, le point du jour.
Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Où est passé Paris ma rose? Paris sur Seine la bouclée.
sont partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais. Paris marose, où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genin, l'avenue? Et le chemin vert, qu'est-il devenu? Lui qui serpentait près de la Bastille. Où est passé Paris la grise, Paris sur brume la mouillée? Les partis, Paris l'oubli est parti sur la pointe des pieds, Paris la grise. Où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis? Ces soleils de craie, où sont-ils partis qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans-souliers? C'est perdu vers Aubervilliers, ou vers Nanterre, l'embourbé, Paris la rouge. Où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on ne voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime, Paris que j'aime et qui n'est plus?
Sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.